Bienvenue dans Magic Colors, votre rendez-vous érotique les soirs de nouvelle lune et de pleine lune. Ce soir, un code violet, violet velours, velours plutôt rugueux, avec ce texte du XVIIe siècle, qui est considéré en fait comme le premier texte, le premier roman de libertinage en France. Dans ce texte, il est question de deux cousines, Fanchon et Suzanne, qui discutent et qui abordent des thèmes sur la sexualité et sur leurs expériences. En l'occurrence, Suzanne, qui a des expériences régulières et qui instruit sa cousine Fanchon, qui elle est encore vierge. Elle va également l'introduire à l'idée d'avoir une relation régulière avec un homme qu'il aime. Et Fanchon, petit à petit, va se faire à l'idée. Dans la première partie du dialogue, c'est essentiellement Suzanne qui instruit Fanchon. Et dans la seconde partie de cette œuvre, c'est Fanchon qui revient sur son dépucelage par un certain Robinet, Monsieur Robinet, et qui en fait un détail assez complet. Dans cet épisode de Magic Colors, je vais m'intéresser à un extrait, à plusieurs petits extraits de ce dialogue entre ses cousines dans la première partie de l'œuvre. Et pour mettre en contexte la lecture de ces extraits, je tenais à commencer par la lecture de ce qui fait office d'une sorte de préface de cette œuvre et qui se nomme « Épistre invitatoire aux filles ». C'est une faible raison, mesdames, que celle de vos mères, pour vous défendre de savoir les choses qui vous doivent servir un jour, de dire qu'elles ont peur que vous en usiez inconsidérément, et il vaudra mieux, à mon avis, qu'elles vous en donnassent une pleine licence, afin qu'en choisissant vous-même ce qui est bon, elles fissent éclater davantage par ce choix votre honnêteté. Aussi je veux croire, mes belles, qu'en cette école vous prendrez seulement les choses qui vous sont propres, et que celles d'entre vous qui auront envie d'être mariées auparavant n'useront point de ces préceptes que quand il en sera temps. Là où les autres, qui auront plus de hâte et prendront des amis par avance pour en essayer, le feront avec tant d'adresse et de retenue devant le monde qu'elles ne témoigneront rien qui puisse choquer tant soit peu la bienséance et l'honnêteté. Je vous invite donc, mes belles, à lire soigneusement ces préceptes et à bien étudier les enseignements que Suzanne donne à Fanchon. L'école des filles. Suzanne. Premièrement, tu dois savoir que cet engin du garçon a une peau par-dessus, douillette et unie, qui donne du plaisir à la fille quand elle y touche avec la main. Il est dur et plein de nerfs par-dedans, et l'on sent cela par-dessous la peau, qui est mouvante en le frottant haut et bas, fort, et excepté de vers la tête, qui est composée d'une glande de chair tendre et délicate, et qui ressemble proprement, comme j'ai dit, à un gros bigarreau rouge. Par-dessus, et le long de cet engin, il y a un tuyau qui paroît enflé comme une grosse veine, et qui aboutit à la tête, là où il y a une petite fente en long, comme d'un coup de lancette, et qui est tournée de même sens comme celle du con. Pour la fille, je ne sais comment elle est faite, mais on dit qu'elle a un engin par-dedans, fait comme celui du garçon. Or, voici ce qui arrive quand la fille reçoit le vitocon, c'est le mot. La peau du vit rebourse, qui ne peut entrer, et le membre coule par-dedans toute la tête. Le garçon cependant pousse toujours avec le cul le membre, qui est pressé parce qu'il est trop gros dans le conduit de la fille. Cela fait que la peau qui le couvroie, et qui ne lui a découvert que la tête, vient à frotter par-dessous, contre le tuyau que j'ai dit. À mesure qu'il pousse et retire le cul pour faire entrer, la fille aussi, qui résiste sans le frottement, est celui que la peau et l'engin du garçon lui font dans son conduit. Tout cela leur amène du plaisir, avec les autres caresses qu'ils se font. Enfin, à force de frotter et de remuer le cul de part et d'autre, il arrive que tous deux viennent à s'échauffer d'aise par une petite démangeaison et chatouillement qui leur vient le long de leur conduit. Le garçon en avertit la fille, et elle le garçon, cela les oblige à frotter plus fort et à remuer plus vite les fesses, Le chatouillement cependant s'augmente toujours, et par conséquent le plaisir, lequel enfin devient si grand petit à petit qu'ils en soupirent d'aise et ne peuvent parler que par élan. Ils clignotent des yeux et semblent expirer en s'embrassant de plus en plus fort. Alors le chatouillement les saisit, de telle sorte qu'on les voit pâmer d'aise et à petites secousses, à mesure qu'ils viennent à décharger par les conduits ce qui les chatouilloie si fort, qui est une liqueur blanche et épaisse comme bouillie, qui rendent tous les deux l'un dans l'autre avec un délice qui ne peut s'exprimer. Fanchon. Il faut, ma cousine, que ce plaisir soit bien furieux, puisqu'il les fait tant oublier de ce qu'ils sont. Mais qu'arrive-t-il par après ? Suzanne. Rien davantage, tous deux sont contents pour ce coup, et le vie, qui estoie droit auparavant, sort du con tout lâche et abattu. Fanchon. Cela est étrange, et ne leur prend-il point envie de recommencer ? Suzanne. Quelquefois, quand, à force de baisers et d'attouchements, le vie se dresse, ou que la fille vient à le redresser avec la main, car alors ils le remettent encore une fois dedans et éprouvent le même plaisir. Fanchon. Comment, s'il estoie abattu, une fille le pourroit-elle bien redresser ? Suzanne. Oui, da, avec la main, en le frottant doucement, et si tu savois les vertus de la main de la fille, et combien elle a le pouvoir de donner au garçon du plaisir, tu en seras émerveillé. Fanchon. De grâce donc, ma cousine, dites-moi comment et en quelle rencontre cela arrive. Suzanne. Voici comment il arrive. Quelquefois que le garçon et la fille sont seuls dans une chambre ou dans un jardin, il n'importe point où, et s'entretiennent de choses indifférentes, le plus souvent ils ne pensent point à se faire bien aise, ni à se donner du plaisir, à cause de quelque autre souci qu'ils auraient en tête. Et le garçon voudrait seulement baiser une fois la fille avant de s'en aller, comme par manière d'acquis. La fille, qui est faite à cela, sitôt qu'elle sent la bouche du garçon contre la sienne, vient à pousser petit à petit sa langue en pointe dedans et la fait frétiller contre ses lèvres avec un grand ragoût. Que cela met en humeur le garçon, qu'il a pris de recommencer. Alors, la fille peut prendre un autre plaisir, qui plaît encore aussi au garçon, et ayant regardé tout autour d'elle si personne ne la voit, elle met la langue aussitôt dans la bouche du garçon. Tandis qu'elle lui fait cela, elle le baise, coulant sa main sur son engin, qu'elle prend dans la braguette, et quand elle l'a patiné quelque temps, de molle qu'il estoie auparavant, elle le fait devenir dur comme un bâton. Et on ne saurait dire, pourtant, comme cela se fait, ni par quelle vertu, car elle le frotte seulement deux ou trois fois par-dessus la peau, et le garçon qui sent cela ne saurait s'empêcher de dresser quand il voudrait. Et comme il faut que tout se passe par ordre et dans les règles du plaisir, et que la fille est bien instruite à cela, sitôt qu'elle l'a fait ainsi droit, elle le retire hors de la braguette et le regarde, et lui donne une petite secousse pour l'achever, et puis elle le laisse ainsi tendu en état, pour s'en servir en après. Fanchon. Oh oh ! Je ne pourrais retenir tout cela. Et faut-il, ma cousine, qu'une fille sache toutes ces choses ? Suzanne. Et bien d'autres encore, ce n'est pas là tout, et quand elle a demeuré quelque temps ainsi, elle essaie un autre plaisir pour faire encore au garçon. Fanchon. Encore ? Suzanne. Oui, encore. Elle lui met la main sur les ballottes, qu'il a au-dessous de cet engin, et les soulève mignardement, en les passant et repassant doucement entre les doigts. Et quand elle a fait en cet endroit, elle lui vient manier les fesses et les cuisses, en gravonnant entre ses poils, revient à lui branler l'engin en sorte que la tête qui est toute en sueur s'allonge et se redresse et ressemble à un qui voudrait vomir et qui ne peut. Mais le garçon ne sent aucune douleur de cela, au contraire. Il est si aise qu'il ne lui peut parler. Il pousse le cul en avant pour que la fille lui fasse toujours. Il obéit à tout ce qu'elle veut et semble qu'il écoute tout ce qu'elle lui fait. Et à voir comme son visage est attentif à toutes les caresses qu'elle lui départ de sa main, il semble qu'elle le gratte bien ou il lui démange, et qu'il n'a point d'autre souci au monde que celui-là. Mais par après, quand il se voit chevaucher par elle, qu'il devra chevaucher lui-même, ô dame, c'est alors qu'il est bien plus aise, et que cela lui est presque aussi doux à supporter que comme s'il déchargeoit continuellement. Fanchon. Certes, voilà bien des sortes de plaisirs, et je ne sais si je pourrais bien retenir tout. Et comment fait donc la fille, ma cousine, pour chevaucher le garçon quand il est si aise ?
Suzanne.
C'est alors qu'il se couche à la renverse, et que la fille monte dessus et se remue dessus lui.
Fanchon. Oh oh !
Voilà encore une autre façon. Et l'on fait donc ce doux jeu en bien des postures.
Suzanne.
De plus de 100, vois-tu, et l'on y prend plaisir à toutes, mais tu le sauras plus à loisir.
Fanchon.
Et pourquoi le garçon a-t-il plus de plaisir quand il est chevauché de la fille que quand il chevauche ?
Suzanne.
C'est qu'il dit qu'il lui est bien obligé de tant de peine qu'elle prend et qu'il juge mieux par là de sa bonne volonté. Et il dit qu'il se veut soumettre à elle par humilité et qu'il n'est pas digne de prendre le dessus. Et la fille, qui est pleine de reconnaissance, elle fait un grand effort sur son courage.
Fanchon.
Aussi vraiment, elle le doit, car voilà une grande civilité du garçon.
Suzanne.
Et qui est continuée jusqu'à la fin.
Un peu plus loin dans ce premier dialogue.
Fanchon. Mais à propos, ma cousine, ne m'avez-vous pas dit que vous avez ce plaisir quelquefois ?
Suzanne.
Oui, da, quand je veux, et c'est un garçon que j'aime bien qui me le donne.
Fanchon.
Vraiment, je le pense, et il faut bien qu'il soit vrai que vous l'aimiez, car vous dites qu'il ne se peut autrement, mais que je suis émerveillée, et cela vous fait-il donc bien aise ?
Suzanne.
Si aise que je n'en puis plus.
Fanchon.
Et comment ferai-je pour en avoir un qui m'en fie autant ?
Suzanne.
Il en faut prendre un qui t'aime bien, qui soit discret et qui n'en dise mot à personne.
Fanchon.
Et qui pourrai-je prendre, à votre avis, qui fût propre à cela ?
Suzanne.
Pour moi, je ne sais, je n'en connois point de plus propre que le jeune Robinet, car il t'aime bien, et de plus il est beau et de bonne grâce. Et je l'ai vu une fois baigné en la rivière, où je fus tout émerveillée, parce qu'il a une belle chair blanche, ni trop grasse, ni trop maigre, il a les cuisses grosses et nerveuses, et les reins forts et larges, avec un grand et puissant engin par devant, cotonné d'un poil follet, et toutes ces bonnes qualités contribuent beaucoup au plaisir de la fille.
Fanchon.
Mon cœur, je tremble, je ne sais pourquoi, quand je suis si proche à me porter à cela. Mais, ma cousine, n'y a-t-il point de mal à le faire ?
Suzanne.
Et quel mal y aura-t-il, sotte ? Regarde comme je suis.
Fanchon.
Mais cela n'est-il point défendu ?
Suzanne.
Pourquoi défendu, m'amour ? Il y a tant de plaisir. Et puis l'on n'en saura rien, car qui est-ce qui le dira ? Je me fie bien à toi, ne te fieras-tu pas bien à moi ?
À cette heure, Robinet n'aura garde de l'aller dire, parce qu'il est discret.
Outre que s'il l'avoit dit, il y perdrait autant que toi, car il ne te verroi plus, on ne te feroi plus compte de lui parmi la ville.
Fanchon,
quel malheur ! Mais quand on est marié, quand j'y pense, un mari ne fait-il pas donc moins cela à sa femme ? Et s'il veut noir reconnaître qu'un autre lui eût déjà fait.
Suzanne.
Tu n'as que faire de craindre, car quand cela t'arrivera, je te donnerai un secret pour qu'il n'y paroisse plus.
Fanchon.
Mais y a-t-il d'autres filles qui le fassent aussi, car elles n'oseront, et puis si on veut noir le savoir, on ne les mariera plus par après.
Suzanne.
On a garde, mamie, de le savoir, puisqu'elles le font en cachette, et on ne le sait non plus d'elles que l'on ne saura de toi ou de moi aussi.
Vraiment,
il y a plus de la moitié qui le font, et si par hasard les parents viennent à le savoir de quelqu'une, ils n'en disent mot à personne, et ne laissent pas cependant de la marier à quelqu'un qui n'en sait rien.
Fanchon.
Et Dieu qui sait tout ?
Suzanne.
Dieu qui sait tout ne le viendra pas dire et ne découvre rien aux autres. Et puis à bien dire, ce n'est qu'une petite pécatille que la jalousie des hommes a introduite au monde. À cause qu'ils veulent des femmes qui ne soient qu'à eux seuls, et crois-moi d'une chose que si les femmes gouvernoient aussi bien les églises que font les hommes, elles auront bien ordonné tout à rebours.
Fanchon.
Les hommes, pourtant, à ce qu'il me souvient avoir entendu dire à ma mère, ne laissent pas de dire qu'ils font mal comme nous. Et s'ils avaient établi cette loi, comme vous dites, ils ne l'auront pas point établi contre eux-mêmes.
Suzanne. C'est pour abuser d'autant plus qu'ils en ont fait. Car s'ils ne s'estoient pas soumis à cette loi qu'ils l'ont inventée, les femmes auraient dit « Oh oh, et pourquoi ferons-nous mal là où les hommes n'en font point ?» Cependant, ils n'ont pas laissé de se tirer de pair par une autre raison. C'est qu'ils disent que devant Dieu ce péché est un péché comme les autres. C'est pourquoi ils font tout de même et sans crainte d'être punis, non plus que s'ils avouent manger des œufs en carême. Mais pour les femmes, ils y ont attaché un certain point d'honneur, afin de les tenir toujours en crainte devant eux, et une note d'infamie à celles qui contreviennent droit aux lois de cet honneur, laquelle les prive, quand on le sait, de plusieurs avantages qui sont parmi elles. Fanchon. Et quand on ne le sait pas ?
Suzanne. Elles sont aussi honnêtes que les autres.
Fanchon. Tellement donc qu'il n'y a que la croyance qu'on a de leur honnêteté qui les rend honnêtes ?
Suzanne.
Non, certes, il vaudra mieux pour elles qu'elles eussent ce plaisir et que l'on n'en sût rien, car elles seront aussi honnêtes que si elles ne laissent toi point et qu'on vint à se l'imaginer. Et le premier dialogue se conclut sur ces mots.
Fanchon. Certainement, je reconnois que c'est un art bien difficile à apprendre que celui-là, ma cousine. Et il y aura bien encore plus de choses à dire, ce me semble, si l'on demande les raisons particulières de chaque point.
Suzanne.
Vraiment, il ne faut pas que tu doutes qu'on y puisse ajouter. Et quand je te reverrai, j'espère bien de t'en raconter davantage. Mais parlons encore de mon ami, à propos, que t'en semble encore une fois.
Fanchon.
Je vous dis que vous êtes bien heureuse, ma cousine, et que votre mérite aussi vous rend digne en partie du bien qu'il vous fait recevoir.
Suzanne.
Point du tout, mon cœur, car mon mérite ne le rend point sage comme il est. Tu ne sauras croire au reste la discrétion qu'il a pour moi. Quand nous sommes devant le monde, il n'oserait presque me regarder par respect, et il semble qu'il n'aurait pas la hardiesse de baiser le bas de ma robe, tant il a peur de m'offenser. Et cependant, il faut avouer qu'il sait si bien bannir le respect quand il est temps, qu'il n'y a sorte de mignardise et de lascivité qu'il ne commette et ne fasse commettre pour me donner du plaisir et à tous deux du contentement.
Fanchon.
Eh, paix !
Suzanne.
Qu'y a-t-il donc ?
Fanchon.
Ah, ma cousine, le cœur me bat, et j'entends Robinet qui vient ici.
Suzanne.
Et tant mieux, réjouis-toi. De quoi as-tu peur ? Que je porte déjà d'envie à ton bonheur et au plaisir que tu vas recevoir. Cependant, rassure-toi toujours un petit et te dispose à lui faire bonne chère de tes faveurs. Je m'en vais au-devant de lui pour le recevoir. Tandis que tu l'attendras sur le lit, feignant de travailler à ton ouvrage, je lui conterai comment il se doit comporter, afin que tu ne sois pas surprise.
Adieu.
Fanchon.
Adieu, ma chère cousine. Je me recommande bien à vous.
Cette femme maison ici représente une femme consciente d'elle-même, puisqu'elle est toute nue et elle le sait pas, elle sait pas qu'elle est nue. Elle est partie dans un pays où elle a besoin de reconstituer, de et de serrer près d'elle une maison vide. Alors cette petite main qui est comme ça veut dire venez, venez à mon secours. Je souffre. Cette main comme ça, qui dit s'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Venez me chercher. le mal du pays. Venez à mon secours. Venez à mon secours. Je souffre. Shades of black, I'm so alone, I wanna go back.